De lire ensemble le chapitre 16 du premier livre de Samuel. Premier livre de Samuel, nous lisons ensemble le chapitre 16. Premier livre de Samuel, chapitre 16. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül, je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Samuel dit, « Comment irai-je ? Saül l'apprendra et il me tuera. » Et l'Éternel dit, « Tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, « Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. » Tu inviteras Isaïe au sacrifice. » Je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux ? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Éliab, « Certainement, loin de l'Éternel est ici, devant lui. » Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends pas garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer Shamma, et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer sept de ses fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, « L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. » Puis Samuel dit à Isaïe, « Sont cela tous tes fils ?» Et il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. » Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent, « Voici, un mauvais esprit venant de Dieu t'agite. » Que notre Seigneur parle, tes serviteurs sont devant toi, ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe, et quand le mauvais esprit venant de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Saül répondit à tes serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. L'un des serviteurs prit la parole et dit, voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethléemite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier parlant bien et d'une belle figure. Et l'Éternel est avec lui. Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, « Envoie-moi David, ton fils, qui est avec les brebis. » Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau, et il envoya ces choses à Saül par David, son fils. David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül, et il fut désigné pour porter ses armes. Saül fit dire à Isaïe, « Je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. » Et lorsque le mauvais esprit venant de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. Amen. Voilà, nous avons partagé, voici quelques semaines, quelques pensées sur l'onction de David, sur l'appel de David et l'onction de David, fils d'Isaïe. Vous vous souvenez que David est une figure proéminente de la Bible tout entière. C'est un roi qui va élargir les frontières d'Israël. C'est un roi sous le règne duquel Israël remportera de nombreuses victoires. Si David ne construira pas de ses mains le temple de Dieu, parce qu'il a été un guerrier, il a versé beaucoup de sang, ce sera son fils qui le bâtira. En revanche, c'est à David que par un écrit de sa main, Dieu a révélé les dispositions concernant le temple, ses arrangements, son plan, sa disposition, etc. David est un homme dont la Bible parle abondamment dans le livre de Samuel, dans le livre des rois, on entend encore parler de David, dans les livres des chroniques, et David est l'homme que le Saint-Esprit a utilisé pour rédiger, pour écrire bon nombre des psaumes consignés dans les Écritures. Alors c'est une figure importante de la parole de Dieu. Nous avons parlé de David comme type de Jésus-Christ lui-même. Nous souvenons qu'il est, choisi pour délivrer Israël. Il va prendre la place de Saül qui a été rejeté, un petit peu comme Christ nous délivre de Satan, l'adversaire de notre âme qui, déchu, est devenu un adversaire, l'adversaire de Dieu. Et David va régner dans la justice. Et puis David, nous avons vu qu'il nous fait penser aussi à nous, lorsque Dieu nous appelle. Et il nous ointe également, nous devenons une même plante avec Christ. L'appel que Dieu nous adresse, eh bien, nous amène à être unis à son Fils, béni soit son nom. Dans la deuxième partie de ce chapitre, eh bien, nous voyons un petit peu ce qui s'est passé après l'appel de David, à savoir qu'il va être, éprouvé, il va être éprouvé et il va être envoyé dans la cour de Saül. Il va être envoyé dans la cour de Saül. On va voir dans quelles circonstances. Et là, Dieu va commencer à travailler, Dieu va commencer à disposer les choses en vue d'amener David à régner. Et il a été oint pour roi, Dieu l'a choisi, il a reçu cet appel, il le sait, mais il ne régnera pas immédiatement. Il va s'écouler entre l'appel de David et le moment où il sera officiellement reconnu comme roi, plusieurs années, qui seront d'ailleurs des années difficiles, des années d'épreuve, des années où il craindra même pour sa vie, puis parce que c'est la parole de Dieu, elle s'accomplira, et David régnera sur Israël, d'abord sur la tribu de Juda, puis, 7 années plus tard, sur l'entièreté du peuple d'Israël. Et nous aussi, il s'écoule un temps entre le moment où Dieu nous appelle et le moment où, effectivement, nous régnerons avec lui dans le ciel. Nous avons déjà commencé à régner. Béni soit son nom. Il nous a dit que ceux qui sont en Jésus-Christ régneront par Jésus-Christ lui seul. Et c'est vrai que dans la vie, nous avons déjà commencé à régner. Nous avons commencé à régner dans le sens où le Seigneur nous a fait grâce de nos péchés, nous a réconciliés avec lui. Et il nous communique la force, la volonté, la capacité de résister à la corruption qui existe dans le monde par la convoitise, de résister au péché, de livrer un combat vainqueur contre nos propres passions, nos propres pulsions, contre le péché qui habite en nous. Voilà, nous avons commencé à régner. Mais ça, vous voyez, le monde ne le reconnaît pas. Le monde ne reconnaît pas ce règne-là. Ou alors, lorsque dans le monde, les hommes et les femmes le reconnaissent, ils se convertissent au Seigneur. Mais viendra un jour où l'Église régnera, effectivement. La Bible parle de nouveaux cieux, de nouvelles terres où la justice habitera, ce sera le règne de paix de Jésus-Christ et nous régnerons pour toujours avec lui. Comme David, persévérons donc entre le moment où Dieu nous appelle, où Dieu nous oint, et malgré les épreuves qui ne manqueront pas de se présenter, bien demeurons bien convaincus que sa promesse s'accomplira. Et ça nous donnera de la force, c'est pas pour tenir ferme, pour tenir bon et nous confier dans le Seigneur pendant les épreuves. Sur la route, relisons les psaumes. Tous ces psaumes pendant lesquels David avait été appelé, il n'était pas encore en position de roi, il ne régnait pas encore officiellement sur Israël. Eh bien, dans tous ces moments-là, David s'est confié en Dieu, dans des moments difficiles, dans des moments où Saül en voulait à sa vie, et imitons sa foi. Alors, à quelle occasion David va-t-il être appelé à la cour de Saül, après avoir été oint, là, au milieu de ses frères, par le prophète Samuel? Bien, nous avons lu que l'occasion de la venue de David à la cour de Saül, bien, c'est l'agitation de Saül alors qu'il est tourmenté par un mauvais esprit. Tourmenté par un mauvais esprit, c'est un jugement de Dieu. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre cette parole de l'Écriture, un mauvais esprit venant de l'Éternel. C'est-à-dire que c'est un jugement de Dieu sur la désobéissance, l'entêtement de Saül, qui, après avoir bénéficié dans un temps pour un temps de la grâce de Dieu dans sa vie, bien s'est obstiné, s'est entêté, s'est détourné de la volonté de Dieu et a persisté dans un état de désobéissance et de rébellion à Dieu. C'est important de le comprendre. Dieu manifeste ici un jugement. Dieu est redoutable par ses jugements. Et je signale que ce texte ne doit absolument pas, bien entendu, ne doit absolument pas amener qui que ce soit à penser qu'un chrétien authentique puisse être possédé par un démon. Vous voyez, ce texte n'enseigne absolument pas cela. On voit dans Saül quelqu'un qui obstinément s'est détourné, qui persiste dans sa désobéissance, qui persiste dans sa rébellion contre Dieu et qui va subir un jugement de Dieu. Rien ici qui justifie cette fausse doctrine. N'est-ce pas qu'un chrétien, avec ses faiblesses, mais un authentique chrétien puisse être possédé par un démon, par un mauvais esprit. Je le dis parce que je sais que c'est une doctrine que l'on voit, que l'on rencontre dans des livres, dans certains milieux, n'est-ce pas? Mais nous devons être convaincus que ce n'est pas du tout en accord avec l'Écriture. Hein? Pareil, il y a une pensée que j'ai parfois vue troubler des chrétiens dont la famille, les antécédents avaient, hélas, trafiqué avec l'occultisme, avec le monde des ténèbres, et qui, même après leur conversion, sont troublés et disent « Mais voilà, je suis encore tenté, est-ce que ce ne serait pas une influence ténébreuse parce que mes parents, n'est-ce pas, ont trafiqué avec l'occultisme, mes parents ont invoqué les esprits, etc. » Béni soit Dieu, il y a une parole claire dans l'Écriture. Le Seigneur nous dit que Dieu, lorsque nous nous convertissons au Seigneur, nous délivre de la puissance des ténèbres et nous transporte dans le royaume de son Fils bien-aimé. Il nous fait grâce pour nos offenses et il nous réconcilie avec lui. Le Saint-Esprit, n'est-ce pas, vient faire sa demeure dans la vie des chrétiens, dans leur corps même, et nous sommes mis au large, n'est-ce pas, des conséquences des œuvres que nous avons pu pratiquer lorsque, dans notre ignorance, dans notre misère, nous ne connaissions pas Dieu. À combien plus forte raison, n'est-ce pas, sommes-nous délivrés des conséquences de ce que nos parents ont pu pratiquer. Je me souviens de ce jeune homme, que à l'époque c'était encore un jeune homme, j'avais rencontré. Aujourd'hui, il est chrétien, aujourd'hui il est serviteur de Dieu. Lorsqu'il s'est converti dans une petite ville de l'est de la France, eh bien, sa mère était connue. Elle était connue dans toute la région pour sa pratique de l'occultisme. Et on l'appelait la sorcière. Les gens de cet endroit la connaissaient pour toutes ses pratiques occultes, la consultaient même. Et ce jeune homme, donc son fils, n'est-ce pas, bien sûr, au moment où il ne connaissait pas Dieu, a subi l'influence de toutes ces choses. Quand il est devenu chrétien, béni soit Dieu, il en a été parfaitement délivré. Il est devenu un authentique chrétien, la paix est venue dans son cœur. Ce qui est formidable, c'est que non seulement à partir de sa conversion, il n'a plus eu à subir l'influence de ce que sa mère avait pu pratiquer, mais au travers son témoignage, à travers sa vie, à travers la joie qui rayonnait de lui, sa maman, c'est pas, a été convaincue de sa misère, elle a été convaincue de la culpabilité de ses pratiques, et elle s'est convertie au Seigneur. Elle a renoncé, elle a abandonné, elle s'est détournée résolument de tout commerce avec le monde des ténèbres, et elle est devenue chrétienne. Et je l'ai rencontrée, sa maman. Je l'ai rencontrée au cours d'un passage. Je visitais ma famille dans l'Est. Et dans une église, voilà, on me l'a présentée. C'est la mère de tel frère. Et ce qui m'a frappé, voyez-vous, c'est que cette femme était une authentique chrétienne. Son visage était plein de douceur, de bonté. Béni soit Dieu pour l'œuvre qu'il fait. Alors, c'était une petite parenthèse à partir de ce passage qui nous montre que Saül, qui était tombé sous un jugement de Dieu, était tourmenté par un mauvais esprit. Pour que nous soyons bien au clair sur ce fait qu'un chrétien dans la main de Dieu ne saurait être possédé par un démon. C'est absolument contraire à l'Écriture, demeurons fermement établis sur cette réalité. Alors pour revenir à Saül, ses serviteurs étaient troublés. C'est eux qui vont suggérer à Saül d'aller chercher quelqu'un qui joue de la harpe pour le soulager. Bon, il raisonne un peu comme le monde, parce que ils auraient dû, n'est-ce pas, donner à Saül, en fait, ce conseil. Repends-toi. Repends-toi de ton péché. Repends-toi de ta désobéissance. Repends-toi de ta rébellion. Cherche auprès de Dieu le pardon et la délivrance. Alors que le monde, n'est-ce pas, propose à ceux qui ne connaissent pas Dieu toutes sortes de moyens de s'étourdir, n'est-ce pas, avec de la musique, par exemple, même si ça peut les soulager. Mais la délivrance se trouve toujours pour l'âme qui a commis le mal dans la repentance. Et dans la foi au Seigneur, qui pardonne celui qui se tourne vers lui et qui implore son pardon. On va donc envoyer vers David. Et on envoie vers David parce qu'on a vu, c'est pas que Dieu était avec lui. Le serviteur qui donne ce conseil à Saül va dire, c'est un vaillant guerrier, c'est un homme vaillant, il sait jouer du luth, c'est un habile musicien, et Dieu est avec lui. Vous voyez que Dieu, n'est-ce pas, mettait sa marque sur David. David n'avait rien fait, sans doute, de particulier pour être appelé, mais c'est Dieu qui, à partir du moment où il l'a appelé et oint, va lui ouvrir le chemin. Et la grâce de Dieu qui repose sur sa vie est visible, on va faire donc appel à lui. Et c'est Saül qui va appeler lui-même le fils d'Isaïe, David, à sa cour pour qu'il joue de la harpe. On relève que Saül est loin de se douter qu'en agissant ainsi, il va faire lui-même venir dans sa cour celui que Dieu a choisi pour régner à sa place. Et on l'a dit, Saül, dans son entêtement, va devenir une véritable figure de l'Antichrist. Puisque si vous lisez les chapitres qui suivent, vous apercevrez que pendant des années, Saül va traquer David pour tenter de le faire mourir. Saül, dans son orgueil, qui veut demeurer roi contre la vie de Dieu, va faire chercher David pour lui ôter la vie. Il n'y arrivera pas, parce que Dieu aura sa main sur David. Mais, voilà, Saül, qui devient l'image de l'Antéchrist, eh bien, c'est lui-même qui fait venir David à sa cour. Et là encore, c'est une pensée apte à fortifier notre cœur dans la foi. Le diable fait toujours une œuvre qui le trompe. Le diable fait toujours une œuvre qui le trompe. Souvenons-nous d'Aman, cet ennemi, cet adversaire du peuple d'Israël dans le livre d'Esther, qui va vouloir la mort de tous les Juifs, parce qu'il estime, c'est pas comme Satan, que l'adoration lui est due, et parce que Mardoché ne fléchit pas le genou devant lui, il va se tenter de corrompre le cœur du roi Assuérus, le persuader de faire mourir tout ce peuple juif, et même sur le conseil de ses amis, il va faire ériger dans son jardin un bois pour y pendre Mardoché. Et à la fin du livre, bien Dieu dirigera les circonstances pour que Haman lui-même soit pendu à son bois. Et de la même manière, le diable fait une œuvre qui le trompe. Souvenons-nous aussi de la parole des apôtres qui ont dit que lorsque Ponce Pilate, Hérode, les Juifs et les païens se sont ligués pour faire mourir le Seigneur Jésus-Christ, ils n'ont fait qu'accomplir ce que la main et le conseil de Dieu avaient arrêté d'avance. Alors ça a une application pratique, ce n'est pas pour nous. Pour s'adresser à un bien-aimé dans la foi et lui dire, mais mon frère, ma sœur, si dans votre vie vous n'en pouvez plus, s'il y a des épreuves que Dieu permet, si vous avez été éprouvé, bien sachez que Dieu peut permettre l'épreuve. Dieu peut permettre que le diable même nous mette des bâtons dans les roues, que le diable s'oppose à l'Église d'une manière ou une autre. Dieu le permet, mais jamais au-delà de ce qu'il permet. Et le diable fait toujours une œuvre qui le trompe. À travers même ce que Dieu permet, bien il en arrive du bien. Il en arrive du bien. Dieu est capable de retourner, n'est-ce pas, les desseins malveillants de l'adversaire de nos âmes pour qu'ils servent à notre bien. C'est mystérieux, la providence de Dieu, et c'est un fait, car il est écrit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Vous voyez, Dieu est souverain. Et dans nos épreuves, dans nos difficultés, lorsque notre cœur sombre, fortifions-nous à cette pensée. Dieu est capable de faire concourir ce qui nous arrive à notre bien, et il le fera comme il l'a fait pour David. Quelques pensées sur le service de David à la cour de Saül. Nous avons lu que David a été oint pour roi, et ici, il va être appelé à la cour de Saül comme un simple serviteur. On va le faire venir, c'est le roi qui donnera les ordres, il sera appelé à jouer de la harpe. Et vous voyez que David ne regimbe pas, mais il va s'acquitter humblement de cette simple tâche, et il va le faire le mieux qu'il le peut. C'est une marque d'humilité, c'est aussi une marque de foi. David aurait très bien pu raisonner en disant « Ah, c'est le roi, or j'ai été oint pour roi, David était conscient de ça ». Il avait été oint par Samuel, devant son père, devant ses frères. C'est pas, il pouvait penser que la nouvelle s'ébruiterait et que Saül, l'apprenant, ne manquerait pas de tenter de le faire mourir. C'est ce qui va se passer. Mais il y va. Il va à la cour du roi. Il va à la cour du roi parce que c'est Dieu qui l'envoie, parce que c'est Dieu qui le veut. Ayons confiance en Dieu. S'il nous demande de faire quelque chose, s'il nous demande de nous rendre quelque part, si nous avons reçu, d'une manière ou d'une autre, la conviction que Dieu nous veut à tel endroit pour telle tâche, aussi humble qu'elle soit, faisons-le. David ne cherche pas, à travers cette mission auprès du roi Saül, à poursuivre un plan qui lui permettrait ensuite de régner sur Israël. Il n'ambitionnera rien, mais il va simplement faire ce que Dieu lui demande. Dieu permettra qu'un serviteur aille lui dire « Viens, rends-toi près de Saül pour jouer ». Nous aussi, n'ambitionnons pas des choses élevées. Paul, l'apôtre du Seigneur, dira « N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Pourquoi ? Laissez-vous attirer par ce qui est humble parce que c'est le chemin que le Seigneur lui-même a emprunté. Jamais, jamais le Seigneur n'a recherché une élévation comme les hommes pourraient l'entendre, même si Dieu ensuite l'a élevé. Même si Dieu ensuite l'a élevé. Vous savez qu'on parle beaucoup d'ambition. Le monde, souvent, s'appuie sur l'ambition. Il n'y a pas que des ambitions coupables, il y a parfois de saines ambitions, je suis d'accord, mais n'est-ce pas, Dieu a créé l'homme pour qu'il s'élève. Mais bien souvent, on sait que l'ambition se mêle dans notre propre cœur à toutes sortes de pensées orgueilleuses. Aussi, n'aspirons pas à ce qui est élevé, mais trouvons notre plaisir dans ce qui est humble. Trouvons notre plaisir dans ce qui nous permet de pratiquer les œuvres du Seigneur, et nous en serons récompensés. Nous en serons récompensés. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. David, donc, va être envoyé, encore une fois, une merveilleuse image de Jésus-Christ, il est envoyé par son père. Il est envoyé par son père dans la cour de Saül pour effectuer cette mission. Et son père va le charger, il va pourvoir et il va charger David avec du pain et du vin. Vous voyez, une merveilleuse image du Seigneur. Il dira que le pain qui vient du ciel, qui donne la vie au monde, c'est sa chair qu'il donnera, qu'il livrera sur la croix. Le vin, comme nous le savons, nous avons rappelé ce matin cela à notre cœur pendant les moments de Sainte-Cène, nous parle aussi du sang précieux de Jésus, sa vie livrée pour le pardon de nos péchés. Il y a plusieurs figures de l'Ancien Testament qui nous font penser ainsi à Christ. C'est vrai de Melchisédek, vous savez qu'il vient à la rencontre d'Abraham avec du pain et du vin, il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Ici, David vient avec du pain et du vin, et c'est une merveilleuse image du Seigneur Jésus-Christ qui, envoyé par le Père, vient dans le monde pour nous délivrer. Voilà, David envoyé par son père avec du pain et du vin à la cour du roi. Peut-être une remarque. Parfois, des bien-aimés entretiennent cette pensée, entretenue parfois par des cantiques, il faut le dire, des cantiques qui voudraient nous faire penser que Jésus, le Fils de Dieu, désarme un Père, Dieu le Père, qui serait courroucé contre nous. Vous voyez, ce qui est vrai, c'est que Dieu le Père, ainsi que le Seigneur Jésus-Christ, n'approuve pas le mal et éprouve une sainte indignation à l'égard du péché. Mais, vous voyez, la Bible dit que Jésus a été livré pour nos offenses et qu'il est ressuscité pour notre justification. Livré par qui ? Quelqu'un dira, il a été livré par Judas, il a été livré par le peuple d'Israël. Il a été livré par son Père. C'est Dieu qui l'a envoyé. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et le Seigneur en était parfaitement conscient lorsqu'il dira « J'ai reçu de mon Père pouvoir de donner ma vie, j'ai reçu de lui pouvoir de la reprendre. » Voyez, le Père et le Fils et l'Esprit de Dieu dans le plan de salut, dans la mise en œuvre du plan de salut, dans l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix, sont parfaitement d'accord, ils agissent de concert pour notre salut. Et nous devons être conscients de cela aussi. Donc David est envoyé par son père, quoi qu'il soit loin, il fait fonction de serviteur. À travers le séjour de David à la cour de Saül, c'est le plan parfait de Dieu qui est en train de s'accomplir pour sa vie et aussi pour Israël. En effet, le séjour à la cour du roi est une préparation idéale pour la période où David régnera sur tout Israël. Il y verra, il y apprendra des choses qui lui seront utiles. nécessaire. Voilà, c'est encore une fois la providence de Dieu. Providence de Dieu qui, en conduisant David dans la cour du roi, va le former, va commencer à le façonner, à le travailler pour qu'il puisse s'acquitter de la mission à laquelle il a été appelé. C'est pareil pour Moïse, qui a été appelé à la cour de Pharaon, et il y verra des choses qui certainement lui seront utiles sur un plan humain lorsqu'il sera appelé à conduire le peuple d'Israël. Et puis deux pensées encore. Saül va prendre pour un temps David en affection, et il va l'élever. Il va l'élever. Encore une fois, David ne l'a pas cherché. C'est Saül qui le fera. Pourquoi ? Bien parce que c'est Dieu qui le permet. Vous savez que dans sa providence, Dieu est capable d'agir même dans le cœur des hommes. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. C'est vrai, ça. Pas toujours. Mais il est capable de le faire. Aussi, si nous subissons de l'opposition de la part de ceux qui nous entourent, d'une manière ou d'une autre, parce que nous sommes chrétiens, restons dans la paix. Dieu, s'il le permet, nous donnera aussi la force d'avoir envers eux une bonne attitude. Et, n'est-ce pas, si leur opposition, leur agitation est certainement le signe d'une grande détresse intérieure, communiquons-leur la paix de Dieu. Voilà. Ayant devant eux une conduite irréprochable pour que, comme il est écrit, ils glorifient Dieu le jour où il les visitera. Mais soyons conscients aussi, lorsque c'est difficile, parce que ce n'est pas toujours facile pour nous, que Dieu, s'il le souhaite, est capable de disposer favorablement leur cœur à notre égard. Voilà, donc David va trouver grâce auprès de Saül pendant un temps. Et enfin, une dernière pensée, on a remarqué que quand David va là, dans la cour de Saül, va jouer de la harpe, il nous a dit que le mauvais esprit se retire. Et Saül, qui était oppressé, tourmenté par ce mauvais esprit, respire plus à l'aise. Et voilà, c'est le jeu de harpe de David qui produit ceci. Alors pourquoi est-ce qu'il faut instaurer un service de jeu de harpe dans l'Église? Non, c'est pas ça. Dieu, là, s'est servi de ce jeu de harpe parce qu'il l'a permis ainsi. Vous voyez, il y a parfois des moyens que Dieu utilise, et ça vient vraiment de lui, mais il ne faut pas en faire une doctrine, il ne faut pas pour autant les prendre et les institutionnaliser. On voit par exemple dans le livre des Actes qu'à certains moments de son service, l'apôtre Pierre prêchait l'Évangile, et Dieu, dans sa miséricorde, dans sa bonté, dans sa puissance, confirmait sa prédication par des délivrances, par des guérisons, à tel point que lorsque Pierre passait quelque part, ceux qui étaient couverts par son ombre étaient guéris. Voilà, ça c'est la souveraineté de Dieu. Mais il ne faut pas pour ça institutionnaliser, instaurer un service de l'ombre du prédicateur. Vous voyez, ça ce serait mal comprendre dans les Écritures. De la même manière, dans telle ville, lorsque Paul prêchera l'Évangile, bien il nous est dit que ceux-là même sur lesquels on appliquait des linges qui avaient touché son corps étaient guéris. Mais il ne faut pas en faire une doctrine pour autant. Vous voyez, on se confie si souvent et si facilement dans des moyens humains, dans nos moyens, dans nos techniques, même si au départ ça peut provenir d'une expérience authentique. N'est-ce pas ? Non, demeurons simplement fondés sur ce que dit l'Écriture. N'allons pas au-delà, nous nous en trouverons bien. Et ici, vous voyez, c'est pas la musique en elle-même, c'est pas le jeu de harpe en lui-même, c'est parce que David était revêtu de l'Esprit, parce que la grâce de Dieu reposait sur David. Il nous a dit, souvenez-vous, dans ce chapitre, qu'après son appel, après son onction, à partir de ce jour, le Saint-Esprit a été sur David, à partir de ce jour et dans la suite. Et certainement, assurément, si l'Esprit de Dieu, dans sa grâce, demeure en nous, demeure sur nous, bien nous porterons autour de nous, non pas par des techniques et non pas par des méthodes, mais parce que nous serons la grâce de Christ, auprès de ceux qui sont sans espérance, auprès de ceux qui sont tourmentés peut-être, n'est-ce pas, par l'adversaire de notre âme, auprès de ceux qui, dans la maison de Dieu, ont besoin de réconfort, ont besoin d'aide, ont besoin de secours. Ne nous confions pas en des moyens, mais dans l'onction du Seigneur qui demeure en nous et sur nous. Voilà, si le Seigneur nous prête vie, nous reviendrons sur David. Sur ce qui se produira ensuite, il va être ici éprouvé, il le sera encore plus, il sera mis à l'épreuve lorsque Israël se trouvera face à face avec Goliath, ce géant philistin, et la main de Dieu sera sur lui. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous permette de retirer quelques consolations, quelques forces de ce que nous avons médité ce matin dans l'Écriture, et que sa grâce soit également sur nous. On pourrait se lever respectueusement dans la présence du Seigneur et recommander notre retour à Dieu. On se